Quand un enseignement universitaire du droit à temps complet a vu le jour aux États-Unis, la question a affleuré de la scientificité d'une telle discipline. Il y a été répondu par l'affirmative. Oui, le droit est bien une science. Son laboratoire est la bibliothèque. Là, l'étudiant s'initie à la découverte des grands principes et des doctrines qui se sont forgés au cours du temps. La méthode d'enseignement à partir des cas y a été conservée à ce jour. La notion selon laquelle la tâche du juge était purement affaire de logique fut par contre rapidement battue en brèche. L'avis du droit, ce n'est pas la logique, mais l'expérience, avait conclu en 1881 Oliver Wendell Holmes. Ce même auteur rêvera d'une science du droit calquée sur le modèle des sciences de la nature. La prédiction de ce que feront en fait les tribunaux est rien de plus extraordinaire. Voilà ce que j'appelle le droit. La proposition est d'ordre méthodologique. Holmes écrira dans le même article que le droit est le témoin et le réceptacle externe de notre vie morale. Holmes ne se reconnaît pas dans le pragmatisme, mais il est certain qu'on peut rapprocher cette phrase de « a thing is what it does », qui inspirera les juristes réalistes américains dans leur ensemble, qui, eux, se reconnaîtront comme disciples de James ou de Dewey et reprendront le projet de science du droit, ou sur le droit, si l'on préfère, qui se rapproche des sciences de la nature. On pourrait dire qu'il s'agit de faire une science sur la production du droit positif à un moment où, en Europe, Hans Kelsen élabore sa théorie pure du droit, qui se veut également une approche scientifique du droit positif. Le réalisme américain, qui connut son apogée dans les années 20 et 30 du XXe siècle, s'était beaucoup intéressé à l'étude de la psychologie des acteurs judiciaires. Ses premiers continuateurs privilégieront les rapports droit et société, d'autres les rapports droit et économie, puis viendront droit et littérature et les critical legal studies. Ces deux mouvements se rejoignant parfois aujourd'hui dans la personne de leurs représentants, alors que les points de départ ont été différents. Les critical legal studies ont constitué un courant critique bien distinct des courants critiques du droit européen, et ce courant ne se comprend vraiment qu'à partir du pragmatisme libéré qu'a théorisé Roberto Mangabeira Unger. Le mouvement droit et littérature, à ses débuts, revêt deux formes principales. Alors que les uns se tournent vers les œuvres littéraires avec des préoccupations premières d'enseignement du droit, les autres se soucient de théorie du droit, c'est-à-dire de la façon de rendre compte de ce qui a été produit comme droit, et en l'occurrence aussi parfois de le critiquer. C'est cette seconde démarche au sein du mouvement droit et littérature que je voudrais présenter brièvement ici. Le contrôle de constitutionnalité des lois aux États-Unis depuis le début du XXe siècle avait connu des fortunes diverses jusqu'à ce que tombe la décision Brown versus Board of Education en 1954. Le résultat fut applaudi, mais la façon de le justifier laissa perplexes les commentateurs professionnels. Puis la Cour suprême fournit aux constitutionnalistes abondance de grains à moudre en prenant des décisions innovante, en particulier sur des sujets de société très controversés, qui ne pouvaient pas être tenus pour des lectures mécaniques du texte constitutionnel. Les commentateurs eurent recours à des notions de constitution écrite, non écrite, de common law constitutionnel, s'affublèrent mutuellement d'étiquettes, telles qu'interprétivistes, ou au contraire non interprétivistes, pour enfin se tourner vers la compréhension de l'interprétation pour ce qui est des textes religieux et des textes littéraires. Un univers fabuleux s'ouvre alors devant le juriste qui organise des colloques pluridisciplinaires, qui écrit des livres des sentiers battus et d'inspiration tout aussi pluridisciplinaire. Avec la sociological jurisprudence et le réalisme juridique qu'il avait suivi de près, le théoricien du droit avait découvert ou redécouvert le rôle créateur du juge et l'importance capitale des faits dans le droit qui va être produit, mais il avait encore à prendre conscience de la profondeur de la confrontation de l'interprète avec le texte et à privilégier la notion de narration sur celle de fait. Pour ce qui est des catégorisations des interprètes, un détour par la notion de religion civile empruntée aux sociologues et aux historiens, et alors assez en vogue en sciences politiques, va permettre d'envisager la Constitution comme une écriture et de reformuler les oppositions entre interprètes en les calquant sur celles qui ont émergé à propos de l'interprétation des Écritures, en faisant remarquer au passage que l'analogie entre la Constitution et un texte sacré et la Cour suprême et une institution sainte n'est pas seulement symbole d'unité, mais annonce de division. Le grand texte sur le mécanisme de la formation du droit et de l'interprétation en droit est Nomos on Narrative de Robert Cover. Il a puisé son inspiration chez les psychologues, chez les théoriciens de la société, chez les philosophes et les spécialistes de littérature, chez les juristes et dans les écritures, pour construire un modèle de la manière dont s'élabore le droit. L'objet est situé dès le départ, je cite. Nous habitons un nomos, un univers normatif, constamment nous créons et faisons subsister un monde de bien et de mal, du légal et de l'illégal, du valide et du non-valide. L'étudiant en droit peut en venir à identifier le monde normatif avec l'outillage professionnel du contrôle social. Il est certain que les règles et les principes de justice, les institutions solennelles du droit et les conventions d'un ordre social ont leur importance pour ce monde. Elles ne constituent néanmoins qu'une petite partie de l'univers normatif qui devrait retenir notre attention. Aucun ensemble d'institutions juridiques, aucun ensemble de prescriptions juridiques n'existe indépendamment des narrations qui le situent et lui donnent sens. À chaque constitution correspond une épopée, à tout décalogue son écriture. Une fois replacé dans le contexte des narrations qui lui donnent sens, le droit n'est plus seulement un système de règles à observer, mais il devient un monde dans lequel nous vivons. Et l'auteur précise aussitôt, toute prescription exige d'être située dans un discours, d'être pourvue d'une histoire et d'une destinée, d'un début et d'une fin, d'une explication et d'une finalité, et toute narration exige sa prescription, sa morale. Pas plus que l'histoire et la littérature ne peuvent échapper à leur localisation dans un univers normatif, une prescription, fût-elle incorporée dans un texte juridique, ne peut échapper à une origine et à un terme dans l'expérience, dans les narrations qui sont les trajectoires que nos imaginations projettent sur la réalité matérielle. Cover est un représentant du courant droit et littérature, mais un représentant dissident qui met en garde contre le risque de perdre de vue que si le droit est parole, il est aussi violence contre celui qui ose le braver. Il nous présente une société où fleurissent des interprétations diverses et où l'interprétation donnée par l'autorité habilitée joue un rôle indispensable, mais en même temps destructeur. Nous sommes tous des interprètes et des interprètes situés qui réagissons, qui appréhendons et lisons le droit des systèmes normatifs dans lesquels nous vivons à partir de nos histoires personnelles. Le droit ne peut pas exister indépendamment de ceux qui composent la société qu'il constitue. Il demande des engagements interprétatifs de notre part et au minimum le choix de globalement ne pas s'opposer à sa mise en œuvre. Cover distingue deux éléments nécessaires comme des conditions inversement proportionnelles à l'existence d'un système juridique. Un élément païdéique, créateur de droit, qui recouvre un ensemble de préceptes et la narration qui va avec, un enseignement général et individuel de ce corpus et l'impression d'une projection commune vers l'avenir et un élément conservateur de droit, l'appareil institutionnel qui impose une interprétation dans le foisonnement de celle-ci et place les contraintes de la paix par-dessus le vide où cesse le lien fort. En effet, l'hypothèse de l'interprétation unique est aussi méthodologiquement indispensable que pratiquement utopique. Des narrations diverses vont se faire jour ou se développer souterrainement dans les dictatures qui seront sources d'interprétations également diverses du droit. Quand la tension est trop forte, la société se scinde. quelle différence y a-t-il entre les élèves de Stanley Fish, qui tentent de donner un sens à la suite de noms inscrits au tableau et qu'ils prennent pour un poème, et le professeur de droit qui se débat avec un texte trouvé dans les tiroirs d'un collègue défunt pour imaginer s'il s'agit ou non d'un testament dans lequel l'autre lui aurait confié la mission de gérer son œuvre non publiée. Le contexte permet aux uns de penser qu'ils interprètent un poème. Les variations dans son contexte de lecture vont conduire le professeur, bien intentionné et bousculé dans ses convictions sur l'interprétation, à varier dans sa qualification du document, un confrère se chargeant de voir en outre dans une inscription « l'oiseau rouge », une référence à l'oiseau de feu, au phénix, suggérant que le défunt attendait de celui qu'il a désigné qu'il fasse revivre à travers l'usage qu'il va faire de son œuvre. Et Sanford Levinson, dans le même registre, peut inviter ses étudiants à percer le mystère des contours d'une clause qui fait de l'adultère un obstacle à l'obtention d'un prix. Ces textes nous amusent, mais ils sont là aussi pour nous faire réfléchir à l'identification du texte, à l'importance du lecteur, à sa fragilité, au rôle du contexte et à la construction des significations. Si les responsables des manifestations pluridisciplinaires se plaisent à rassembler les tenants de théories opposées, il est possible de faire un tri et de privilégier les travaux de ceux qui présentent les thèses les plus innovantes. Trois auteurs alors peuvent retenir notre attention, William Bain Michaels, Stanley Fish et Ronald Dworkin. Walter Bain Michaels met en garde contre la tentation de vouloir abstraire un texte de son contexte et de toute idée d'intention de l'auteur. C'est le contexte qui informe de la façon d'interpréter un terme, par exemple les usages commerciaux en vigueur dans le domaine. Ce n'est que parce que nous supposons que des marques sur le papier ne sont pas l'œuvre d'une troupe de singes que nous cherchons à y donner un sens et nous refusons d'imaginer une intention et nous efforçons d'imaginer une intention derrière le texte, mais n'en sommes-nous plus le lecteur, nous nous en faisons l'auteur. Pour qu'il y ait un texte, il faut supposer qu'il y ait eu intention de dire. L'intention de l'auteur va finalement apparaître comme une référence nécessaire à l'interprète, pour un auteur dont les théories ont beaucoup évolué avec le temps. Stanley Fish, que nous avons déjà rencontré, pour lui, il faut supposer qu'il y eut l'intention de dire ou de communiquer quelque chose. Mais comment va-t-on l'interpréter? Il faut le qualifier, le faire entrer dans un domaine. C'est du droit ou c'est un poème, et cette caractérisation va commander le choix d'une certaine démarche interprétative. Il n'est pas interdit de l'envisager d'un autre point de vue, disciplinaire, mais il faut se rendre compte que la finalité première était autre. Une fois le texte identifié comme relevant d'un certain domaine, le praticien compétent dans ce champ saura tout de suite quoi faire. Il réagira spontanément, comme le joueur de baseball ou basketball, par exemple, qui ne connaît pas seulement les règles du jeu, mais qui les a intériorisés, mais qui a aussi intériorisé une pratique qui lui permet de développer sur l'instant un jeu personnel adapté, des stratégies face aux situations les plus diverses. Aux yeux de Fish, les pratiques interprétatives, juridiques ou littéraires, émanent de communautés interprétatives qui, comme la communauté scientifique de Thomas Kuhn, partagent une même manière de procéder à un moment donné, un même paradigme sans doute concernant leur champ d'activité et ce qui s'y inscrit, ce qui n'exclut pas qu'il existe des pratiques dissidentes, marginales et reconnues comme telles, les unes se définissant d'ailleurs par rapport aux autres. Une controverse s'est développée entre Stanley Fish et un de ses collègues juristes, Owen Fiss, à propos de la communauté interprétative. Tous deux en saluent l'existence, mais le second reproche au premier un conventionnalisme à la façon du second Wittgenstein, la communauté interprétative constituée par des compréhensions partagées, et envisage au contraire la communauté interprétative comme défini et constitué par des règles d'encadrement, disciplining rules, auxquelles elle confère une autorité. Il existe de telles règles pour fils, pour interpréter un poème, un contrat, une loi, une constitution, même si dans différents cas, elles pourront ne pas être les mêmes. Elles fonctionnent comme les règles d'une langue. Je cite, « Les règles d'encadrement fonctionnent de la même façon que les règles d'une langue. Elles contraignent les utilisateurs de la langue, fournissent les standards pour juger des emplois de la langue et constituent la langue. Les règles d'encadrement du droit peuvent être comprises, comme mon collègue Russ Ackermann a suggéré, comme une grammaire professionnelle. » À quoi Fish répond que ces règles sont inutiles et inapplicables. Les règles demeurent opaques à celui qui se tient à l'extérieur. Il faut les avoir déjà intégrées à sa pratique pour être capable de les lire. Ronald Dworkin a présenté la production juridique comme une entreprise interprétative qui concerne la société dans son ensemble et a invité ses concitoyens à prendre une attitude protestante de responsabilité à son égard. On est très proche alors des thèses de Robert Cover. Mais Dworkin développe parallèlement des idées originales. Il compare l'écriture du droit à l'écriture d'un roman à la chaîne à travers les générations de juges. Ceux-ci ont pour tâche, lorsqu'ils statuent sur un cas, de trouver la bonne réponse. Une réponse qui est en harmonie avec le droit posé antérieurement, fit, et qui le fait apparaître sous son meilleur jour, justify. Pour Dworkin, les premiers auteurs dans cette chaîne disposent davantage de latitude que leurs successeurs qui sont de plus en plus contraints au fur et à mesure que le temps avance et que le roman se précise du fait de la production antérieure. Stanley Fish a critiqué cette conception d'une contrainte accrue au fil du développement de l'œuvre. Pour lui, le premier auteur d'un roman à la chaîne est aussi contraint que le dernier et que ceux qui sont intervenus entre-temps. La déconstruction n'a pas seulement inspiré des représentants du courant droit et littérature, elle a contribué à enrichir la critique de la pensée juridique moderne conduite par les représentants des Critical Legal Studies qui voulaient dénoncer les contradictions qui menaient celle-ci. La plus célèbre des déconstructions juridiques dans une perspective CLS est celle réalisée par Claire Dalton sur la doctrine du contrat, mais qui déborde beaucoup la question de la doctrine du contrat pour traiter plus généralement des rapports interindividuels et de l'intervention du droit en leur sein. Un constitutionnaliste difficile à situer par rapport au courant, mais par certains côtés à coup sûr très proche de droit et littérature, John Lubsdorf, envisage la déconstruction d'un texte constitutionnel à partir de l'exemple de la Constitution des États-Unis, ce qui lui permet de mieux situer les problèmes d'interprétation constitutionnelle à défaut de les résoudre. Lubsdorf invite à localiser dans la Constitution elle-même les conflits auxquels une interprétation donne lieu. Une Constitution doit donner l'apparence de l'unité, cependant la clarté et l'équivocité auront à l'usage leurs avantages et leurs inconvénients, et ils en ont déjà lors de la rédaction elle-même. Toutefois, on aurait tort de l'appréhender comme un système de délimitation floue. Lubsdorf propose de la comparer à un tourbillon qui conserve sa forme en nous entraînant tous dans ses tours et ses détours. Le centre du tourbillon dans la Constitution des États-Unis est représenté par l'article 4 sur les États fédérés. L'article du milieu, le point où la tension est à son comble. Comme le cœur du tourbillon est un vide, qui ne fait pas partie du tourbillon mais contribue à en déterminer la forme, l'article 4 ménage un espace et laisse aux générations suivantes le soin d'avancer sur ce problème controversé et dangereux qui est le rapport entre les États constitutifs de l'Union et l'État fédéral. Lubsdorf insiste sur le fait que la Constitution est une voix au milieu d'autres voix, d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Elle-même donne la parole à d'autres voix. Les hiérarchies entre elles peuvent sembler s'inverser, mais cela ne fait que ramener la Constitution au peuple. Celui qui a le plus pratiqué la déconstruction en théorie du droit aux États-Unis est probablement Chuck Balkan. Il a d'abord expliqué simplement et en a exposé et illustré l'intérêt pour la théorie du droit. Son explication s'organise autour de deux thèmes. Tout d'abord, l'inversion des hiérarchies conceptuelles, ensuite ce qu'il appelle la libération du texte par rapport à son auteur. Cette dernière n'est que la constatation que l'auteur ne maîtrise pas la signification qui va être donnée, ou plutôt les significations qui vont être données à son texte, ni même parfaitement ce qu'il énonce. Je cite. « Nos mots semblent toujours nous jouer des tours inattendus, établir des liens que nous n'avions pas envisagés, conduire à des conclusions que nous n'avions pas présentes à l'esprit en parlant ou en écrivant. Cette curieuse habitude de nos mots à faire claquer les coutures de nos intentions et de produire leur propre logique est ce que Derrida appelle le libre jeu du texte. Néanmoins, cela n'exclut pas qu'il puisse y avoir des misreadings, des ratés de lecture. Toutes les lectures n'apparaîtront pas comme aussi légitimes à la critique ou à celui qui procède lui-même à une interprétation. Le jeu du texte ne vient pas se substituer à l'intention de l'auteur. Sans le présupposer de celle-ci, il n'y a plus de texte. L'intention de l'auteur et le libre jeu du texte sont dans une relation de différence avec un A. Le texte de la théorie de l'intention et la théorie du libre jeu doivent coexister dans une alliance malaisée au sein de laquelle ni l'une ni l'autre ne peut être la maîtresse ou la servante. On ne saurait parler de déconstruction en droit sans évoquer sa magistrale déconstruction d'une décision de la Cour suprême des États-Unis, United States v. Caroline Pordax, qui est certainement un des plus beaux exemples, avec Nomance and Narrative de Robert Carver, de leçons d'interprétation constitutionnelle et d'écriture du droit infligées par la doctrine à la jurisprudence. Le raisonnement juridique était aussi tarabiscoté qu'abondaient les falsifications en tout genre dans une affaire d'ersatz de lait, et Balkin, dans un style jubilatoire époustouflant, d'entraîner le lecteur dans une recherche éperdue sur ce qui, d'une note de bas de page ou du corps de la décision, était en définitive le plus important en l'occurrence. Un autre juriste déconstructionniste, Pierre Schlag, a reproché à Balkin d'avoir transformé la déconstruction en technique à la disposition de l'individu. En fait, Balkin fait de la déconstruction un moyen d'analyse critique. Il compare la pratique déconstructrice à la psychanalyse. Ce rappel pourrait ne pas être suffisant pour répondre à la critique de Schlag. Par contre, les propos de Balkin à la fin de The Footnote nous conduisent au-delà de la critique de Schlag et montrent l'enjeu infiniment plus vaste de droit et littérature, qu'il s'agisse du droit comme littérature ou du droit dans la littérature. Je cite. Peut-être vous serez prêt à concéder que si Caroline Prodox avait été un document religieux ou un texte du Talmud, le type d'analyse que j'ai présenté ici aurait pu être acceptable. Cependant, vous pouvez dire que Caroline Prodox n'est pas un texte religieux et par conséquent, ce type d'analyse n'est pas approprié. Mais cet argument révèle ses propres dépendances culturelles, sa propre base non logique, le moment où il est formulé. Ceci démontre que l'analyse textuelle, appropriée même pour les textes juridiques comme la Torah, dépend du contexte, de l'histoire, d'une tradition de pratiques herméneutiques et par conséquent n'est pas simplement un donné, pas simplement immanente au texte lui-même. Les juristes anglo-américains et, je dirais, les juristes occidentaux en général ont isolé un certain nombre de manières de traiter les textes, les ont appelées l'analyse juridique correcte et rejeté toutes les autres approches. Il continue. Je dois noter ici, entre parenthèses, que l'une des grandes réalisations de Platon a été son combat pour créer une discipline séparée de philosophie. Une discipline qui établit un divorce entre l'argumentation philosophique et le langage figuratif des poètes et le jeu sur les mots des sophistes. Mais dans ses grandes réalisations philosophiques, Platon nous a-t-il sauvés d'une erreur ou est-il simplement intervenu dans le champ linguistique en divisant le monde entre le discours philosophique qui est littéraire sans le savoir et le discours littéraire qui est consciemment littéraire ? Dans cet éclairage, ce n'est pas un accident si Platon se méfiait de la poésie, parce que la poésie pose la plus grande menace à une discipline philosophique repliée sur elle-même. Platon était soupçonneux des poètes à la fois pour leur capacité à persuader les gens par des moyens non philosophiques et pour leur capacité à les égarer. Cependant, les poètes pouvaient à la fois persuader et égarer précisément parce qu'ils s'enivraient de la gaucherie et du caractère inextinguible du langage. Alors que les philosophes voyaient le langage seulement comme une nécessité déplorable, une bête sauvage qu'il fallait domestiquer. Pour le poète, la bénédiction du langage est son infinie capacité d'équivoque et sa richesse évocatrice. Pour le philosophe et aujourd'hui pour le juriste, la malédiction du langage est son opacité, parce que, idéalement, le langage devrait être transparent à la raison. Une question vaut d'être posée. Bolkin juge-t-il qu'il faut choisir entre un langage juridique totalement spécifique et un langage juridique qui ne connaît aucune part de spécificité? Il est aisé de constater que l'exercice auquel Bolkin s'est livré dans ce footnote a été un travail doctrinal de critique d'une décision judiciaire et non pas le travail d'un juge, ce qui ne veut pas dire que le juge soit privé de laisser son imagination au vestiaire. En fait, la pensée juridique américaine a commencé un peu plus tôt à s'inscrire dans le postmodernisme qui rompt avec l'obsession du même, de l'uniformité, pour s'intéresser à l'autre, à l'exclu, à la diversité enrichissante qui est une invitation à envisager une variété infinie de possibles, et le discours doctrinal, en droit, a pu prendre de nouvelles formes où une pensée flottante ou associative permet de laisser jouer davantage l'imagination et d'introduire dans la réflexion des enseignements tirés d'autres sphères de pensée. Ainsi, Robert Burt, dans le sillage de nomances narratives de Robert Cover, se penche sur le problème de l'exclusion dans la société démocratique, qu'il s'agisse de ségrégation raciale ou de rejet du handicapé mental. Il fait remarquer le paradoxe que, dans certains cas, la victoire de la majorité aboutit à la négation de l'autre, à son traitement comme moins qu'un égal. Il reconnaît dans la Cour suprême une institution susceptible de faire prendre conscience du problème. Pour cela, il s'inspire des paraboles de la brebis égarée et du fils prodigue, qui sont des récits où celui qui est à l'intérieur se trouve à un moment comme abandonné, pour que celui qui était à l'extérieur revienne à l'intérieur et où l'auditoire lui-même se trouve interrogé, où l'auditeur lui-même se trouve interrogé sur où il se situe. De même, Richard Hyland tente une interprétation de l'histoire de la tour de Babel pour saisir le rapport entre les diverses langues et les différents systèmes juridiques. Il renonce à la lecture courante qui considère que la confusion du langage était une punition. Sa réponse préférée est d'y voir une fable de la postmodernité. Après avoir constaté que chaque langue est constituée à partir d'une intelligibilité particulière qu'elle exprime et reproduit, il constate qu'il en va de même des systèmes juridiques tout entiers. Ils ont chacun leur manière d'exprimer le droit et la justice. Il y puise aussi un autre sens à la différence que celui retenu par les diverses philosophies de la différence. Le message de cette histoire n'est pas simplement que la différence est un donné incontournable. C'est plutôt que la diversité élargit les ressources de l'intelligibilité. Je continue à citer. La sagesse n'est pas simplement la tolérance. Ce n'est jamais une reconnaissance de la diversité, aussi généreuse et humanitaire soit-elle. La sagesse est une vision à partir de la diversité, une compréhension constituée au sein de la fragmentation. Finalement, Bolkin et Levinson vont proposer un autre modèle pour le juge-interprète, celui du musicien qui interprète une partition ou celui de l'acteur qui joue une pièce. Au départ, nous avons rencontré des juristes qui se tournaient vers les théories de spécialistes d'autres disciplines pour comprendre et rendre compte de l'activité des juges constitutionnels. Martha Minow, elle, va trouver dans ce qu'elle appelle le tournant interprétatif en droit une ressource pour reconstruire la théorie des droits. Elle adopte, nous dit-elle, pour son article intitulé « Interpreting Rights », une version particulière du tournant interprétatif en droit, celui qui décrit le droit comme langage commun et qui relie le droit aux contextes sociaux dans lesquels les normes peuvent être générées et recevoir un sens. Elle envisage la question de l'application en l'appliquant au droit des enfants, qui faisait l'objet de beaucoup de débats alors. Elle consacrera un autre article très important, spécifiquement à la question de la différence, mais nous n'aurons pas le temps de l'envisager ici. Un terme revient souvent dans les travaux de ces auteurs qui ont abordé le droit comme littérature, celui de voix. Les multiples voix qui se font entendre ou aspirent à le faire dans l'aujourd'hui et rencontrent celles d'hier enfouies profondément dans tout système juridique et les voix de demain qui viendront remodeler ce qui leur a été transmis. Pour être attentif à ces voix, la comparaison avec la littérature et avec la musique a pu jouer un rôle. À coup sûr, cette question est au cœur de la postmodernité avec le rapport à l'autre. En théorie du droit, l'impact de l'approche du droit comme littérature se fait particulièrement sentir en droit comparé et en droit constitutionnel. Pour le droit comparé, nous avons eu l'occasion d'apercevoir les thèses de Richard Ryland, Pierre Legrand, dont la participation à ce colloque aurait été d'un grand enrichissement s'il avait été disponible, permet à un auditoire francophone et anglophone de découvrir une approche très subtile du droit comparé. Avec Derrida on Law, il offre à un auditoire anglophone une chance supplémentaire de pouvoir réfléchir très minutieusement sur Derrida et le droit, ce qui, dans l'œuvre de Derrida, peut concerner le droit, et sur ce que cette œuvre a inspiré pour penser le droit et son étude. Pour donner une idée de la conception du droit comparé défendue par Pierre Legrand, il est possible de ne traduire qu'un court extrait d'une contribution reprise dans cet ouvrage qui est intitulée « Paradoxically, Derrida for a Comparative Legal Studies » et qui est centrée sur la critique d'une autre vision du droit comparé. Parce que tout droit a une tradition et l'expression d'une culture, et parce que tout comparatiste en droit s'inscrit dans une tradition et dans une culture, l'étude juridique comparative veut s'écrire selon une autre logique, selon la logique de l'autre. Ce qui est nécessaire à un âge de globalisation, ce n'est pas tant de connaissances techniques sur un ce qu'un droit étranger dit sur un point donné à un moment donné, parce qu'il est relativement aisé de consulter une encyclopédie ou de s'assurer les services d'un conseil étranger pour vérifier de telles données rudimentaires. Il est plus immédiatement important de comprendre comment les communautés juridiques étrangères pensent le droit, pourquoi elles le pensent de cette façon, pourquoi elles pourraient trouver difficile de le penser autrement et comment leur pensée diffère de la nôtre. C'est ce type d'information fondamentale sur l'altérité en droit que les comparatistes sont les mieux placés pour apporter et qu'ils devraient chercher à disséminer, laissant les mises à jour techniques aux spécialistes d'un droit étranger donné. Quel magnifique programme ! Pour ce qui est du droit constitutionnel, il est possible de soutenir que l'approche droit et littérature a de diverses manières, et peut-être en particulier par sa distinction d'une pluralité de voix marquée profondément la doctrine américaine. Balkin a apporté une réponse déconstructionniste précieuse à la question lancinante de la méthode d'interprétation à utiliser. La théorie déconstructrice souligne qu'aucune théorie de l'interprétation juridique ne peut être fondamentale au sens d'offrir une méthode première ou centrale. Aucune des méthodes habituelles de l'interprétation juridique, les canons d'interprétation des textes, l'histoire, la structure, le précédent, les conséquences ou la justice naturelle, ne peut servir de fondement autosuffisant pour l'interprétation juridique. Aucune ne peut non plus être placée au-dessus des autres comme règle générale. La déconstruction prétend plutôt que l'interprétation est une entreprise pragmatique, s'appuyant sur chacun de ses différents modes d'argumentation dans une tension créatrice. L'art de l'interprétation est celui d'utiliser les outils multiples de l'interprétation sans pouvoir dépendre d'un seul comme fondamental. La comparaison avec l'interprétation des textes religieux résonne à travers des références à des canons et des anticanons en matière de décision à retenir ou non comme modèle. Des auteurs s'ingénient à trouver de nouvelles justifications à la place de celles qui ont été données dans des cas mémorables, jugés bien résolus mais mal motivés. La comparaison du texte constitutionnel avec un texte religieux reste en toile de fond. Les enseignements des sciences cognitives semblent venir à l'appui de l'intérêt porté au raisonnement par association, dans la mesure où celui-ci semble une composante forte du raisonnement humain. Les travaux furent dans la perspective le droit comme littérature sont maintenant parfois intégrés dans les présentations d'enseignement droit et littérature, qui privilégiaient au départ le droit dans la littérature, et parfois aussi, celles-ci empruntent, semble-t-il, elles-mêmes une approche droit comme littérature.
So I'm really happy to be here today. It's a real honor to be at, you know, in the United States, we don't have an institution like this. So this is almost like coming to the holy of holies of the intellectual life of the world. And I'm lucky to be here. But what I'm actually thinking about right now is that I have to follow that extraordinary presentation of Françoise Michaud. I don't think there's any law professor in America who could have done that. I certainly couldn't have. And I do have to say it's extremely humbling to be to have a small piece of mine talked about in a talk that begins with Holmes and Cardozo. So I think that the best way of, so it's hard to follow that. I think the best way of thinking about my little piece is what Françoise does is she presents the entire panorama of sort of the modern jurisprudence of American law, sort of looking at it through a telescope. And what I do is I take exactly the same authors, or a small number of them, and I look at it through a microscope. So it's simply the same idea that she has presented, but in a kind of like a detail of a painting. Okay. How lawyers read. Uh-oh. Ça va? Okay. On August 3rd, 1925, as he did on most mornings, James Greeley McGowan rose early. McGowan owned the W.T. Smith Lumber Company in Chapman, Alabama. He liked to visit his mills before breakfast and encourage his employees, all of whom he knew by name. On that morning, a large piece of timber waste was stuck against a post in the conveyor belt assembly in mill number 2. Joe Webb, then 58 years old and one of McGowan's employees, was at work clearing the jam. Webb's task was to climb up onto the conveyor, dislodge the wood, and push it to the floor. Webb freed the 75-pound block and rocked it over the edge. Gravity had laid claim to the block by the time Webb saw McGowan walking on the floor below. Webb immediately understood that the block would land on McGowan and, when falling from that height, probably kill him. Webb struggled to restrain the block, but lost his balance and fell with it, holding on and managing to divert its trajectory. The block missed McGowan and landed on Webb himself, breaking his right arm and tearing off the heel of his right foot. Webb became disabled for life and incapable of gainful employment. McGowan, the patriarch of one of the South's most prominent families, recognized his duty to Webb. It seems he made an oral promise to pay Webb an annuity for the rest of Webb's life at the rate of $15 every 2 weeks, beginning from the date of his injury. The payments were made regularly until McGowan died on January 1, 1934, and then continued for another 4 weeks, at which point the executors of McGowan's estate, two of McGowan's sons, decided to stop the payments. Webb and his wife, Lessie, were dirt poor and unable to work outside the home. When the payments stopped, Webb sued McGowan's estate to enforce the promise and recover the unpaid installments. The executor demurred on the grounds that McGowan's promise was without consideration and therefore unenforceable. Under the consideration doctrine, no promise is enforceable at law unless it is part of a bargain. McGowan's promise was not part of a bargain. Rather, it was a promise to reward Webb for services already rendered. The trial court sustained the demur to all counts and dismissed the case. The appellate court reversed. Though the court cited numerous cases, nothing in the precedent compelled the result. It would have been easier and probably more consistent with the decisions to decide against Webb. The Alabama Supreme Court affirmed. The court's holding was subsequently adopted by the restatement drafters, but the case law is not uniform, and the majority view is apparently to the contrary. This is the celebrated American contracts case of Webb versus McGowan, a case most American law students read in their first year contracts course. There is much to say about the decision, but I'd like to focus here on one question. It is perhaps best posed by listening to the voice of Judge Samford. You heard Francoise Michaud talk about la pluralité des voix paz and des voix voices. So, one of the appellate judges who decided the case, he concurred specially, writing the following. It's important to listen to him. The questions involved in this case are not free from doubt, and perhaps the strict letter of the rule, as stated by judges, though not always in accord, would bar a recovery by plaintiff. In other words, if you apply the law, Webb loses. But following the principle announced by Chief Justice Marshall, where he says, "I do not think that law ought to be separated from justice where it is at most doubtful," I concur in the conclusions reached by the court. Judge Samford found meaning in this story. He recognized that if he were to apply the consideration doctrine in a conventional way, he would decide the case the other way. Nonetheless, he believed that this set of facts stood for something important. He called that something justice, because that's what we call meaning in the law. The question that interests me is how jurists find meaning in sets of facts. As Robert Cover wrote, every narrative is insistent on its demand for its prescriptive point, its moral. Narratives are, as he wrote, the trajectories plotted on material reality by our imaginations. Everyone in this room knows these texts. What I would like to do with you over the next few minutes is observe how these narratives are created. There is actually a way to do that. There are a number of what we might call the great books of the common law. I'd like to ask how these authors would think about Webb. I'd like to ask about the meaning that the writers of several of these books might find in the case, given what we know about how they think about the law. William Blackstone. How might Blackstone have decided Webb versus McGowan? Blackstone would have enforced the promise if enforceability accorded with the long-standing customs of the English people. One way to decide whether a particular result embodies custom is to ask what the people would expect. Most people recognize that services must be reciprocated. When an employer grants an employee a lifelong pension for saving the employer's life, most people would expect that the promise would be legally binding. Every year, I ask my contract students to decide this case. Over a couple of decades, the vote has been virtually unanimous in favor of Webb. Blackstone might therefore argue that the decision accords with law. Oliver Wendell Holmes. How would Holmes have decided Webb versus McGowan? Holmes endorsed the consideration doctrine. The Holmesian question is not which of the parties acted properly, but whether the court should intervene in the dispute. Holmes would probably suggest that the fulfillment of McGowan's promise is precisely the type of decision that should be left to the individuals involved. McGowan had decided to keep his promise. The decision then devolved to the executors, two Oxford graduates who were heirs to the McGowan fortune. Holmes might suggest that it is more important to permit the McGowans to make this decision for themselves than it is to guarantee that Webb continues to receive the annuity. Maitland, Frederick William Maitland. Maitland is as close as the great books of the common law come to the thought of Chairman Mao. Maitland was the founder of English legal history. Maitland believed that the purpose of legal history is to ferret out the antiquated elements of the common law and demonstrate that they should be jettisoned. Maitland would have understood the consideration doctrine as a historical remnant, the result of a characterization difficulty that arose in the context of the forms of action. Webb was McGowan's employee. Webb rendered a service to McGowan. McGowan's promise had the effect of liquidating the value of Webb's services. There is no reason to allow the historical accident of the consideration doctrine to determine the outcome. Maitland might well have considered McGowan's promise enforceable. Now the famous Cardozo, whose voice we've already heard twice this morning. How would Benjamin Cardozo have decided Webb versus McGowan? In Webb, Cardozo would have focused on the relationship. Both parties took the employment relationship seriously. McGowan interacted every morning with his employees, each of whom he could greet by name. McGowan inspired the kind of loyalty that convinced Joe Webb to put himself at risk. Once Webb suffered injury while saving McGowan's life, the relationship required Webb to reciprocate. Though not legal, this obligation was inherent in the nature of the specific bond. McGowan's promise and his continued payment confirmed the obligation. The question for the court was whether it should intervene to exonerate McGowan's estate from obligations he had recognized and fulfilled over the years. Cardozo would have respected the nuances of reciprocity. He would have enforced McGowan's promise. Carl Llewellyn. If Llewellyn had considered Webb versus McGowan, he might have begun by noting that his teacher, Arthur Corbin, had pointed out long since that there never was such a thing as a consideration doctrine. Moreover, the consideration doctrine does not even name the critical issue. The essential question in a case is never how to apply a legal rule. The question in Webb was not how to structure the consideration doctrine, but rather whether McGowan's executor should be required to continue to make payments to Webb. To answer this question, Llewellyn would first have come to an appreciation of the facts, and then he would have shaped the consideration doctrine to produce the proper result. This is an echo of what Richard was saying earlier today. McGowan considered himself bound not only by his promise, but even more by the circumstances. Nothing that occurred in the real world gave any reason for a court to prevent further payments. If problem there was, it arose solely due to a quirk in the legal system, namely that McGowan's executor could make payment only on obligations considered to be legally binding. In this case, a strict application of the consideration doctrine would accomplish the opposite of the doctrine's presumed purpose. In the area of gratuitous promises, the consideration doctrine is often thought to pursue the goal of refusing enforcers to promises that may not truly be intended. In Webb, on the contrary, the consideration doctrine would prevent the performance of a promise which the promisor considered to be binding. Llewellyn would not have permitted the law to reach a result contrary not only to the thrust of the facts, but that also contradicted the purpose of the norm itself. Llewellyn, too, would have enforced McGowan's promise. Grant Gilmore. Though both Gilmore and his teacher Arthur Corbin discussed Webb versus McGowan in their writings, neither attempted to explain the case, and neither provided guidance about how the case should be decided. In their texts, the case merely provides an example of the kind of argument that has persuaded a court. Both authors noted that other cases have gone the other way. I will admit that in doing research in reading for this paper, this was the most extraordinary thing that I noted, namely that Gilmore and Corman do not ever attempt to explain how the cases should be decided. This non-prescriptive approach to legal theory represents the final wisdom of legal realism. It is meaningless for theorists to tell the court how to decide the cases. Whether we analogize the process to the artist painting a portrait, or rather to the process by which the double helix replicates itself, nothing is accomplished by trying to tell the actors what to do. Instead, we should learn from them how in the real world such magic is performed. Richard Posner. How would Richard Posner have decided Webb versus McGowan? He actually tells us. Posner suggested the calculus by which the case should be resolved. If the probability that McGowan would be killed without the rescue attempt exceeded the probability of Webb's own injuries, and if McGowan's life was at least as valuable as Webb's, then, if the parties had been able to discuss the matter in advance, McGowan presumably would have hired Webb to save him. The courts therefore should enforce the promise. Roberto Unger. Webb versus McGowan presents a paradigmatic example of the type of doctrinal conflict that interested Unger. The consideration doctrine confronts the respect for moral obligation. Enforcing the consideration doctrine favors the market. It enforces only those promises based on profit and gain, getting and spending. The judge who respects moral obligation, on the other hand, confirms that our lives consist of more than the marketplace, and that the human relationships that bind us together are more powerful than the individualistic strivings that keep us apart. Unger would tell us that those judges who believe that the value of social solidarity should play a greater role in judicial decision-making would enforce McGowan's promise. One consequence of examining the way these legal scholars might have created differing narratives about the same case is the understanding that cases are not decided by applying the rules to the facts. That is because there are no rules, at least not in the meaning that we usually give to them, namely legal norms that pre-exist and decide the cases. A rule is simply a product of the court's narrative. Precedent is not decisive. Adjudication is a complex process that takes the rules and precedents into account, along with numerous other factors, including how the judge constructs the narrative. Each case is decided on its own facts. Every case is a case of first impression. Another consequence results from an analysis of the style of these works. There is a leisurely tone in them and no sense of urgency. Whether their comments were prescriptive or descriptive, whether they were offering suggestions or explanations, none of the authors claimed that their ideas should be considered the final word. A passage from Cardozo might explain their equanimity. He believed that in some of the cases, the arguments are equally balanced. In a sense, he wrote, it is true of many of them that they might be decided either way. By that I mean that reasons plausible and fairly persuasive might be found for one conclusion as for another. In the experience of many practicing lawyers, such cases are probably much more numerous than Cardozo suggests. From the perspective of the practicing lawyer, a good argument can generally be made on both sides of most cases. Cardozo himself did not pursue the matter. But the conclusion is inexorable. If the arguments in a case are so equally balanced that a convincing narrative can be created in either direction, then it does not much matter to the law which way it is decided. Of course, the decision may matter deeply to the parties, but the decision does not matter to the law. As long as the narratives are sufficient to anchor the proposed decision in the framework of the law, either decision is acceptable. An extremely small number of decisions are essentially lawless. They cannot be justified by any plausible legal argument. This handful of decisions aside, the common law has developed a structure that may comfortably accept virtually any decision. Either a decision is generally defensible, and neither would upset the framework of the common law. Webb itself is a good example. The moral consideration question was decided one way in Webb, the other in Harrington versus Taylor. You would think that the facts of Webb would only occur once in the common law, but in fact they occur twice. The restatement prefers Webb, but does not dismiss Harrington. The Horn books distinguish a majority and a minority rule. Webb is the minority, actually, but also do not find it necessary or useful to resolve the dispute. In other words, it makes no sense to search for a right answer to a legal dispute in the common law. There is never a right answer. There are only narratives with different resonances. The common law has created an amazing structure in which the very concept of a correct narrative is incoherent. There are answers that, for various reasons, we like more or less, that can be appreciated for different reasons, that can be admired for their creativity and daring, but none of them is right, and virtually none of them is wrong. They are simply the meanings that particular judges have found in particular situations at particular moments. The common law has created a system that encourages judges to take personal responsibility for finding meaning and that can accommodate whatever narratives those judges create in that quest.
J'ai aussi beaucoup apprécié, merci, cette deux communications. Pour poursuivre la discussion avec Françoise Michaud, qui a évoqué notamment Platon, en insistant, et c'est très important, sur la question du langage, je voudrais dire, je pense qu'elle sera d'accord, ce qu'il y a de formidable chez Platon, c'est qu'on trouve une chose et son contraire, c'est-à-dire que d'une part, il y a ces passages célèbres dans lesquels il éconduit les poètes et les narrateurs qui demandent l'asile dans la cité, et on les chasse en disant qu'au fond, ils sont subversifs. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec eux. Ou alors, il les accepte, parce qu'il reprend la scène, il les accepte, mais moyennant censure, ce qui est presque pire. Et puis, il y a l'histoire continue, et les légistes qui viennent déconduire les poètes disent, mais nous-mêmes, en écrivant la Constitution, nous sommes les auteurs de la tragédie la plus belle qui soit, nous sommes l'auteur de la poésie fondatrice de la cité. Et ce Platon-là, ben, nous pouvons, je suppose, travailler avec lui. C'est comme s'il ouvrait le courant en droit et littérature. Donc c'est extraordinaire, cette tension. Et du reste, nous savons bien que Platon est un grand mythographe. Le mythe de la caverne, le personnage de Socrate, le banquet. Donc il écrit des histoires formidables. Mais en même temps, il y a tout ce travail que tu as dit de séparation du langage philosophique du logos par rapport au mutos, etc. Voilà, j'avais cette réflexion-là. Et alors, dans la ligne du très intéressant et très opérationnel exposé du professeur Hyland, je voulais simplement évoquer le nom du philosophe français Paul Ricoeur. On a beaucoup parlé de Derrida ce matin, mais Ricoeur montre bien aussi qu'entre décrire et prescrire, entre le fait et le droit, il y a le raconter. Et le raconter, c'est ce qui fait le pont entre décrire et prescrire. Je pense que ça va dans votre sens. C'est-à-dire, la manière de raconter l'histoire que vous avez évoquée appelle déjà en pointillé la norme qu'on va lui appliquer, je dirais. Et donc, tout est dans la manière de sélectionner les éléments du récit, de les monter, comme on parle d'un montage cinématographique, et de les valoriser. Et à ce moment-là, on est déjà, je dirais, en pointillé dans la norme juridique qui va finalement être appliquée à la fin. Donc, je voulais simplement évoquer cette trilogie de Ricoeur, d'écrire, prescrire, et entre les deux, le raconter. Voilà.
Je vous remercie tous les deux. C'était vraiment fascinant. J'ai beaucoup appris. J'ai une petite question pour Françoise Michaud. Est-ce que vous avez vous-même choisi entre fils et fiche? C'est-à-dire, est-ce que vous avez...
Fiche, probablement. Enfin, alors, on peut faire la déconstruction, dire les deux sont utiles. C'est la même chose avec Boltkin, où quand il dit il faut élargir à d'autres textes que les textes juridiques, d'accord. Il ne faut pas totalement peut-être diluer une technique juridique quand même. Il y a des éléments précieux à garder pour que le droit puisse fonctionner correctement. Parce que si on court des risques.
Est-ce qu'on peut vous retourner la question ?
Moi-même ?
Oui, entre fiche et fils.
Je n'ai pas encore décidé. Fish est souvent un collègue à Cardozo Law School, mais je connais.
Vous êtes à Paris.
Personne ne va pas parler de tout ça aux États-Unis. Non, mais Fish, c'est un ami depuis.
Il faut faire pour comprendre. C'est ça ce qu'il nous dit. Il faut faire, il faut pratiquer. L'application, pas de règles, mais de pratiques, pour se rendre compte de leur utilité. Pour se rendre compte de ce qu'elle représente.
Oui. Alors, je vais toujours réfléchir. Ce débat, ça continue. En général, on pense que Fish avait mieux fait, avait mieux raisonné. Mais ça mène à une sorte d'anarchie, n'est-ce pas, s'il n'y a pas des règles disciplinaires. Et ça me mène à vous poser une question, Richard. I agree with so much of what you were saying, and also the way you describe the common law. But I cannot agree with your conclusion that there is no way to decide a right or wrong answer in the common law, which would also be a kind of anarchy. And I don't want people in this room to feel qu'on peut faire n'importe quoi. Ça, c'est pas du tout vrai. And even Fish, même Fish ne dit pas ça. Parce que, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des contraintes
pratique.
De la communauté interprétative. On ne peut pas ignorer les bornes. You can't ignore all of the constraints that are on the decision maker. Even Cardozo, our most creative of judges, actually said 90% of cases in the common law have an answer that is clear one way or another. What I wanted to add was, and this goes to your question of earlier this morning to me, one way of deciding a right or wrong answer, even in difficult cases, is precisely by looking carefully at the style, and this is what poetics is. If there's a disconnect between style and substance, which often happens, you probably are going to get a bad decision. And this goes also to what Monsieur Ost told us, tout est dans la manière de sélectionner. Everything really is in that middle ground. How do we structure the opinion? So that goes back to our basic disagreement. But I do think you've overstated, whatever your position on that, I think you've overstated the infinite malleability of the common law.
Pour rebondir sur la question de la bonne solution, et avec tout l'intérêt que j'ai pris à votre communication, il me semble que vous caricaturez la position de Dworkin dans la mesure où l'introduction de la bonne solution est aussi un moyen qui permet de hiérarchiser les solutions et en gros de poser la question, y a-t-il des solutions meilleures que d'autres ? Et il me semble que cet argument-là, effectivement, permet de considérer, surtout quand vous faites allusion aux cas qui ont été traités deux fois, des cas similaires qui ont été traités donc deux fois, peut-être avec des solutions différentes, je ne sais pas si tel est le cas, mais j'aurais bien aimé que vous confrontassiez, justement, en posant la question en refusant de poser la question de la bonne solution, deux cas traités par la common law et ayant abouti à des décisions judiciaires différentes. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ce cas-là en disant pourquoi, alors que vous avez deux solutions et éventuellement antagonistes, vous considérez que une des deux solutions n'est pas meilleure que l'autre ?
May I respond in English? And I don't need a microphone, right?
No, that's
I have one.
Oh, yeah. Okay.
So, first of all, Professor Olson, thanks very much for the comment about Ricoeur. That's exactly right. That's where a lot of this comes from. So, Richard's question, and what's your name?
Antimon.
Those are really central questions, and it would take a very long time to, this is a discussion well worth having, I think. So the central thought, if you know Duncan Kennedy, Duncan's thought is that no argument ever clinches the matter. That's the thought. So when you read through the great books of the common law, though they disagree with each other dramatically, right? Holmes hates the natural law elements of Blackstone, and Roberto Unger hates the marginal utility theory of Posner. They don't agree about anything except one thing, and they all agree that cases in the common law are not decided by applying the rules to the facts. In fact, for the great number of them, there are no such thing as rules. Okay. Now, that doesn't create anarchy, and it doesn't, and Richard's right, it doesn't mean that anything goes. It means that the problem of figuring out how cases are decided in the common law is a difficult one. Remember, the common law has this 800-year tradition, right? There are yearbooks from 1200. And there's an uninterrupted tradition of deciding cases, as far as we know, pretty much in the same way over this period. So the tradition seems to authenticate and legitimate itself. It has never had to really explain why it does what it does. I'm teaching right now in Prato in Italy. And yesterday I had my first class. And the first question I asked my students, these are students from Australia, the United States, Canada, and Israel, which has a kind of a common law. How are cases decided in the common law? They've studied this system for 2 or 3 years, all of them. They look at me sort of blankly. I said, well, come on. If we want to have like cases decided alike, you need to have a theory. There has to be some intersubjective way of communicating how we do this. They said, fairness. Okay, good. But then how do you decide whether a particular result is fair? So they don't know. These are our common law students. They don't know because the system seems to be legitimate because of its antiquity. It's only when you pose the question, right, the way Max Weber does in the Sociology of Law, he says the common law is irrational. At that moment, we have to ask ourselves, okay, well then how do we decide cases? Okay, that is a complicated matter. It cannot be stated simply. There are, as Richard says, a great number of constraints. Those constraints are what we learn in law school. My law students know them, but they don't know how, they aren't outside of them, they're inside of them, so that's why they can't articulate them. So the project, at least that I'm involved in, and I think we all should be involved in the common law, is to take seriously Max Weber's challenge, or that Richard has articulated here, and to try to come as close as we can to putting together the various constraints or lenses that we use when we look at the facts. But I think at the end of the day, it's clear not everything is possible. It isn't, n'importe quoi. There are various legal ways of thinking about a problem. The law is not politics. So that's why critical legal realism is over. It's over because we know more about it than critical legal, CLS, critical legal studies said. We now know that there are various constraints within the law, but it's very difficult to explain what those are. And I just one last thought for our colleague from Paris Trois, who I was very interested in his comment this morning. In my humble opinion, I also think that the cases in French law, in the civil law in general, are much more complicated than the civilian theorists let on. There are many cases in which the cases could go either way and a decision is made. And there isn't much in the civil law to discuss why the Cour de Cassation decides one way, or decides one way one day, and then 2 years later decides another way. Why would that be? So all I'm doing is I'm saying we should have another conference. This would be my dream, to discuss in our various systems how we think the cases are really decided.
Une question très rapide. En fait, moi, je travaille en sociologie du droit sur les opinions des individus à propos du droit et de la manière dont il fonctionne. Il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé, ainsi que d'autres collègues européens, avec des juristes américains, juristes et sociologues, sur un projet international à propos de ce qu'on appelait les « legal values ». À l'intérieur de ce projet, nous avions élaboré un questionnaire d'un commun accord et nous devions le tester auprès des différents, dans une enquête pilote dans chaque pays concerné. Vous avez tout à l'heure, à propos des réponses de vos étudiants sur la manière dont un cas doit être décidé, dit que leur première suggestion était « the fairness ». J'ai eu toute une discussion avec des collègues américains pour leur expliquer que cette notion ne serait sans doute pas opérationnelle auprès de répondants français. Et nous avions plusieurs cas à soumettre aux interviewés qui concernaient tout le licenciement. Il s'agissait de savoir si l'ouvrier licencié avait droit ou n'avait pas droit, moralement, à une indemnisation. Et la notion utilisée par mes collègues américains était de savoir s'il était méritant ou non, deserving. Les Français étaient complètement stupéfaits en disant que ça leur rappelait une attitude paternaliste du début du XXe siècle. Et ce qui est très frappant, puisque vous envisagez des discussions sur la manière dont les cas sont résolus dans les différentes cultures, ce sont les a priori culturels, selon les époques, à propos de la manière dont les cas juridiques, enfin, legally relevant, je veux dire, sont reçus ou non par les individus. Et j'aimerais que vous nous parliez, en quelques secondes, si c'est possible, de l'incarnation culturelle de la common law. Est-ce que vous pensez que c'est transposable ou non transposable à des pays qui ont un système, par exemple, civiliste continental? Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous heurter à ce type de difficulté sur la transposition?
Vous savez, j'ai le micro. Alors, vous savez, j'ai fait un DOA de droit privé ici à Paris 2, chez Madame Gobert, et je ne pourrais jamais dire que le droit américain doit être importé ici en France. Ça, c'est exclu. Your question is, let me just transform it, because I think it's really important as a... What I think, from the way I look at the results of your very interesting research is that there is a question when we decide cases, to what extent should the law, should the judicial opinion, correspond to the view that the citizen, the normal citizen, would have? And that is a constraint, and it is seen differently in different systems. So in the American system, in my view, we tend not to want the law to stray too far from what the normal citizen would expect. As the reasonable person, of course. Okay. Whereas I'm not sure in the civil law that's also considered in the civil law, but it's not considered as important. In other words, I don't think that these are idiosyncratic cultural values. I think that there are a series of questions that are common to all of the systems that decide cases. And those questions are decided, the issues are decided slightly differently in each of those systems. And if there are 15 of them, and if they are decided, if each of them is decided slightly differently, then we end up with systems that look radically different, you know, with the arrêt de la Cour de cassation in one sentence, whereas we have the American decisions that sometimes take an entire volume of the US Supreme Court. So those look different. But in fact, they're just subtle variations on a number of themes that are common to all of them.